Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Capot Diamant, Plein Soleil et Géo Plein Air. Au programme, Michel Louvain ou la Louvain Mania. La graine de caméline, un aliment d'ici qui gagne à être connu et périple en mer intérieure. Bonne écoute.
Michel Louvain ou la Louvainmania, avant, pendant et après la Beatlemania. Un texte de Yves Laberge, paru dans Capot Diamant, automne 2021, numéro 147. La Louvainmania. La carrière ininterrompue de Michel Louvain, 1937-2021, débute d'une manière fulgurante. Âgé d'à peine 20 ans, il interprète lors d'un gala au Colisée de Québec ce qui deviendra son premier disque sur 78 tours, puis en 45 tours. Comme l'intégralité du gala des Splendeurs, sa courte performance est retransmise en direct à la télévision en mai 1958. Les radios de l'Est du Québec joueront sa chanson « Buenas noches, mi amor » durant l'été 1958. Tout le style Louvain y était déjà. Élégance, classe, charme discret. Pourquoi cette carrière ne commença-t-elle pas à Montréal? Sans doute parce que, dans la métropole, les spectacles de variété étaient le plus souvent donnés en anglais par des artistes venus d'ailleurs. Ce Tête-Fordois faisait exception, car lui, au moins, il chantait en français. Et on entendait parfois dans ses chansons une allusion exceptionnelle pour l'époque à des lieux d'ici. Dans son 45 tours Sylvie, 1962, un vers disait « C'est à Québec, sous les remparts tout gris ». Aucune chanson en anglais ne parlait alors de Québec. Le public pouvait se reconnaître auprès d'un chanteur d'ici. Dans la chanson « Un certain sourire », 1960, Michel Louvain chantera par inadvertance la devise du Québec dans un contexte inusité. « Quand la radio joue cet air-là, je me souviens d'avoir aimé un certain sourire. » Le beau Michel Louvain devient rapidement une idole et une de ses sorties du Palais Montcalm en 1959 tourne à l'émeute, le forçant à être évacué par le toit par une échelle de pompiers. Un peu comme la Beatlemania, me demanderez-vous. Non, 5 ans avant la Beatlemania, qui débutera en 1964. Bien sûr, il y avait d'autres chanteurs de charme avec un répertoire en français, pensant à Aimé Major ou à Fernand Gignac, dont le style se rapprochait musicalement de celui de Michel Louvain, mais dont l'image différait considérablement. En plus d'avoir une voix reconnaissable entre toutes, le jeune Michel Louvain plaît à son auditoire largement féminin qui lui restera fidèle. Michel Louvain poursuit dans la veine de la romance en reprenant un succès de Charles Aznavour, « Aïe, mourir pour toi », 1959, et ensuite, sur un ton confidentiel, « Un certain sourire », 1960. Tout un cycle sera consacré aux prénoms féminins et aux amours malheureuses. Lisons, il faut nous séparer, Louise et Rita. Durant les années 1960 et 1970, Michel Louvain alterne entre le disque et la télévision et enchaîne les succès, mais il reste snobé par une partie de la colonie artistique, de la critique et du public, qui se passionne alors pour le rock, les auteurs-compositeurs-interprètes et la chanson venue de France. La Dame en bleu. Même pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Michel Louvain, la chanson « La Dame en bleu » 1976 reste emblématique. C'est sa signature. Lui qui ne croyait pas dans le potentiel de ce projet parce que c'était un tango. Néanmoins, ce 45 tours suivi d'un 33 tours réédité en CD connaît un énorme succès, précisément parce que c'est un tango et que le public de temps en temps peut apprécier le tango, surtout si le refrain est facile à retenir et à entonner. Un an plus tôt, le chanteur irlandais Joe Dolan, 1939-2007, a lancé cette chanson, Lady in Blue. Christine Charbonneau, 1943-2014, en a écrit l'adaptation en français. Déjà, on célèbre la longévité de Michel Louvain et en 1978 paraît un album bilan. Michel Louvain, toujours 20 ans, sous l'étiquette Ketel, disponible en 33 tours et en cassette 8 pistes pour la voiture. Mais d'autres bilans suivront. C'est en s'inspirant du plus grand succès de sa carrière que le cinéaste Claude Demers tourne « Les Dames en bleu », documentaire sur le public fidèle, les fans inconditionnels de Michel Louvain, dont celles qui retournent régulièrement le voir sur scène, puis en coulisses. Michel Louvain en reconnaît plusieurs. Il pouvait passer 2 heures après chaque spectacle à signer des autographes et à discuter avec les spectatrices. Il écoutait leurs confidences. Ce film infiniment respectueux interroge le système de la mode et du démodé. On découvre l'attachement sincère et profond des admiratrices pour le chanteur, car ce culte profane n'a rien de superficiel ou de prosaïque. Le fait qu'un artiste aussi apprécié que Michel Louvain ne joue plus à la radio montre que les palmarès, la mode, le vedettariat sont des systèmes artificiels, arbitraires, englobants et assez peu représentatifs. En quelque sorte, les Dames en bleu, confirmant témoignage et dans le contexte québécois ce qu'écrivaient les universitaires américains Carrie Ferris et Scott Harris dans leur livre « Stargazing ». 2011, à propos des rencontres entre célébrités et admirateurs. Les admirateurs apprécient par-dessus tout la simplicité et l'accessibilité des célébrités, monarques, artistes, vedettes, du petit ou du grand écran. Deux qualités que possédait Michel Louvain. Vous écoutez Michel Louvain ou la Louvainmania, avant, pendant et après la Beatlemania, un texte de Yves Laberge paru dans Capot Diamant, automne 2021, numéro 147. Gangnam Style sur YouTube. On retrouve parfois une part de mélodrame, d'exotisme, de surannée dans le répertoire et les arrangements de Michel Louvain. Un rien de nostalgie pour des pièces qui remontent à plus d'un demi-siècle. Certains affirmeront que c'est camp ou campy, c'est-à-dire représentatif d'une époque révolue ou devenue intemporelle, mais qui est bien caractérisée et identifiable. Comme une musique démodée, mais néanmoins agréable, précisément parce qu'elle évoque une autre époque. Mais lorsque Michel Louvain se retrouve au centre d'une chorégraphie colorée et exubérante de Gangnam Style en 2013, personne n'en croit ses yeux et ses oreilles. La surprise est totale. C'est pourtant bien lui qui interprète en coréen, mais peut-être en lip-sync, cette chanson loufoque. Ce n'est ni une imitation ni une parodie. Scéniquement, ce Michel Louvain en version 2013 semblerait presque anachronique, entouré de jeunes danseuses qui se déhanchent langoureusement, presque extatiquement. Musicalement, on ne comprend que 2 mots scandés, « sexy lady » et une suite de borborygmes indéchiffrables. Mais le message de cette performance incompréhensible est lancé, et tout le reste, c'est du coréen, n'est sans doute que redondance. La formule célèbre est reconfirmée. Le médium est le message, et les paroles n'ont plus beaucoup d'importance. La force de cette prestation inattendue de Gangnam Style est qu'au-delà de la réussite des enchaînements, ce septuagénaire n'est ni ridicule, ni rétro, ni kitsch. Ou alors, c'est de l'excellent kitsch. Mais quoi qu'il en soit, ces 5 minutes de danse effrénée auront relancé sa carrière pour toute une autre génération qui le découvrira sur son téléphone cellulaire en naviguant sur YouTube. Encore une fois, en pro, Michel Louvain était là où on ne l'attendait plus. Et toujours impeccable. Sur la rue Michel Louvain. À son décès, survenu le 14 avril 2021, Michel Louvain était déjà entré dans la légende et une rue de Thetford Mines portait son nom de scène depuis 1989. Buenas noches. Bonne nuit, Monsieur Michel Poulain. Et merci d'avoir fait rêver tant de générations. C'était Michel Louvain ou la Louvain-mania, avant, pendant et après la Beatlemania, un texte de Yves Laberge paru dans Cap au Diamant, automne 2021, numéro 147. La graine de caméline, un aliment d'ici qui gagne à être connu. De Valérie Savard, paru dans la revue Plein Soleil à l'automne 2021. Qu'est-ce que la caméline? La caméline est une petite fleur jaune qui appartient à la famille des crucifères. Sa graine peut être récoltée afin d'être mangée telle quelle ou encore pressée à froid pour en extraire l'huile. La graine de caméline est utilisée depuis des milliers d'années un peu partout à travers le monde. Originairement utilisée pour nourrir les animaux, son goût léger de crucifère et de noix ainsi que son excellente valeur nutritive ont poussé certains producteurs à développer le marché pour la consommation humaine. Une petite graine aux grandes vertus. Une portion de 20 g de graines de caméline, soit une cuillère à soupe et demie, contient 4 g de fibres, 4 g de protéines et 1,5 g d'acide gras oméga-3. De son côté, l'huile de caméline, avec son contenu étonnant de 35% en acide gras oméga-3, est une des huiles avec la teneur en oméga-3 la plus élevée. Les oméga-3 sont favorables à la santé du cœur. La graine et l'huile de caméline sont également des sources importantes d'antioxydants de la famille des tocophérols, dont la vitamine E fait partie. Un produit d'ici. Comme mentionné précédemment, la caméline est une plante indigène qui pousse dans plusieurs régions du monde. Depuis les dernières années, elle fait partie de la production agricole de certaines de ces régions, dont le Québec. En effet, on retrouve au Québec quelques producteurs de caméline et la plupart des champs où pousse cette fleur sont certifiés biologiques. Les produits de caméline vendus ici sont donc principalement biologiques et locaux. Comment la consommer? La graine de caméline se consomme telle qu'elle, crue, torréfiée ou encore moulue. On peut l'utiliser comme on utiliserait la graine de sésame. Par exemple, en enrobage de poisson, en panure ou façon tataki, ou encore grillée en garniture pour des salades, des sautés, des pokés, etc. Comme la graine de chia ou la graine de lin, la graine de caméline a la capacité de former un gel lorsqu'elle est incorporée à un liquide. On peut donc l'utiliser pour en faire des puddings. Elle s'apprête aussi bien moulue pour enrichir les recettes de smoothies ou de muffins. Quant à l'huile, celle-ci possède un goût subtil de noisette et de sésame et des arômes herbacés d'asperges. Elle peut servir à aromatiser des plats de pâtes, des pizzas, des tartares ou encore pour faire des marinades et des vinaigrettes. Sa grande capacité à tolérer la chaleur en fait aussi une excellente huile pour la cuisson. L'huile de caméline est même utilisée en cosmétique pour ses nombreuses vertus pour la peau. Combien ça coûte? Le prix de la graine de caméline se compare au prix des autres graines populaires. Il faudra débourser environ 2,80 $ pour 100 g de graines de caméline, alors que pour la même quantité, la graine de lin coûte 1,17 $, la graine de chia 1,60 $ et la graine de chanvre 3,51 $. L'huile de caméline, comme les autres huiles plus haut de gamme, et plus dispendieuse que la plupart des huiles que l'on retrouve sur les tablettes. Il faudra débourser entre $3.40 et $5.20 pour 100 ml d'huile de caméline. La graine et l'huile de caméline peuvent être des produits plus difficiles à trouver puisqu'ils sont principalement vendus dans les épiceries fines ou encore dans les magasins de produits de santé naturelle. En conclusion, le goût et la valeur nutritive de la graine et de l'huile de caméline en font des produits très intéressants à ajouter à son alimentation. Cependant, ils ne sont pas obligatoires et le plus important reste d'adopter une alimentation saine et équilibrée comprenant une grande variété d'aliments. C'était La graine de caméline, un aliment d'ici qui gagne à être connu, de Valérie Savard, paru dans la revue Plein Soleil à l'automne 2021. Périple en mer intérieure. Un texte de Guillaume Saint-Pierre, paru au printemps 2022 dans le magazine Géoplanaire numéro 199. Plus grande superficie d'eau douce au Québec, 2335 km², et possible astroblème le plus vaste de la planète, le lac Mistassini demeure une destination impressionnante pour les plein-airistes. Le lac de tête géant, qui loge à une altitude de 374 mètres, présente des conditions attirantes pour les kayakistes désirant s'y frotter, mais qui les mettent aussi au défi. Immanquable sur une carte, le Mistassini, formé de deux étroites bandes aquatiques, 12 km de largeur et longues d'environ 130 km, s'est révélé comme un séduisant projet d'expédition en raison de son immensité, certes, mais aussi de ses particularités. Il abrite une île météoritique du nom de Mentunicus Misopinachus et constitue, dans un imposant dédale hydrographique, la source de la rivière Rupert, en plus de posséder un riche passé historique. En prévision d'une aventure de 10 jours, sans ravitaillement ni réseau cellulaire, totalisant 265 kilomètres, notre ange gardien et planificateur André Benoît a imaginé une progression vers le nord, durant laquelle nous pourrions être fouettés par des vents dominants de face dans les premiers jours. Notre trio allait naviguer sur le mastodonte dans le sens antihoraire, avec des objectifs journaliers de 25 à 30 kilomètres. Compte tenu de ces étendues d'eau parallèles, les deux ailes du lac, nous redoutions la traversée de ces dernières, car nous serions fortement exposés à des fetches, c'est-à-dire de considérables distances où le vent ne rencontre aucun obstacle et, de ce fait, lève la vague. Pour ce qui est des campements, les sites identifiés grâce à l'imagerie satellite n'étaient pas toujours adéquats. Le rivage est rarement sablonneux et la dense couverture forestière ne permet guère de s'y enfoncer et d'y planter une tente. L'accès au territoire dans cette réserve faunique nécessite des autorisations de la corporation Nibishi, qui gère entre autres ce plan d'eau. La sécurité demeure une priorité et s'avère notre plus gros enjeu, précise Mireille Gravel, directrice générale de cette organisation responsable de la gestion des risques. Un souci qui se vérifie rapidement sur le terrain. Si la mi-juin s'avère une période tranquille côté mouches et pêcheurs, un obstacle aux impacts multiples se dresse, soit la température de l'eau. Le climat du 50e parallèle. Le jour 1 de l'aventure, place au transport. Sur la route 167, à la hauteur de Chibougamau, nous arrêtons nos véhicules à l'accueil Rupert pour nous inscrire. La route du nord, non pavée, est ensuite empruntée. Les pantouflards monteront leur tente au camping de la baie Pénicouan, mais cette option ajoute près de 40 kilomètres à notre parcours. Nous poursuivons, via des chemins forestiers, vers un accès au lac plus au nord-ouest, lequel nous permettra de naviguer sur l'entièreté du lac selon le temps imparti. Nécessitant des véhicules à quatre roues motrices et une bonne connaissance du terrain, cette avancée laborieuse nous permet de mettre à l'eau nos kayaks en franchissant au préalable un bûcher d'environ 200 mètres. Mais nous ne sommes pas venus ici pour nous la jouer facile. Après les premiers coups de pagaie, au sortir d'une baie protégée, on est surpris par l'immensité. Si on aperçoit l'autre rive, qui n'est finalement que l'archipel au milieu du lac, les horizons au nord et au sud sont infinis. Mais dès qu'on se trouve dans le grand lac, la température chute de façon draconienne. Celle de l'eau marque 9 degrés Celsius et celle de l'air est à l'avenant. À un point tel que chaque première pause matinale exige de sortir les brûleurs afin d'en faire jaillir une revigorante soupe chaude. Même au dîner, un feu est invariablement allumé. Dans un tel environnement, les journées grises et pluvieuses s'avèrent difficiles en kayak, tant physiquement que moralement, et nous en vivrons quelques-unes. Heureusement, la nature lacustre a bien d'autres choses à nous offrir. Heiu Ichi l'exceptionnel. Au royaume de l'épinette noire, les successions de littoral vierge, où l'on trouve peu de campements et de coupes forestières, rythment notre progression. À cela s'ajoutent les formations rocheuses extraordinaires, constructions glaciaires omniprésentes qu'on ne peut manquer avec leur strie. Notre cheminement en navigation joue d'ailleurs au yo-yo, principalement en raison des vents qui remuent la plus grande étendue d'eau intérieure du Québec. Le ressac ainsi créé n'est pas toujours aidant. Même sans la présence d'éoles, une houle d'un demi-mètre nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres ici. Au cours de notre périple, une seule mer d'huile s'offrira à nous, et nous la pagaillerons durant 12 heures en guise de remerciement. Je vous rappelle que vous écoutez « Périple en mer intérieure », un texte de Guillaume Saint-Pierre paru au printemps 2022 dans le magazine Géoplanaire numéro 199. Dans un véritable labyrinthe de baies et d'îles ne présentant pas d'élévation suffisamment appréciable qui pourrait nous servir de point de repère, notre avancée au fil du littoral du Mistassini ne peut se faire qu'à l'aide d'une carte. Un GPS est essentiel et, fréquemment, mon acolyte Richard Bissonnette tirera des azimuts qui nous économiseront de précieux coups de pagaie. Il est indispensable d'avoir avec soi un dispositif de communication satellite dans cet univers si vaste que le fait d'entendre un bateau à moteur n'est pas garant de le repérer visuellement. Notre compagnon Luc Caillouette, notamment responsable des communications avec nos proches et de notre progression, se grattera souvent la tête à la recherche de la route optimale, protégée des éléments menant à un potentiel site de camping. Notre seule rencontre humaine a lieu près de l'embouchure de la rivière Rupert et de son incontournable courant. C'est d'ailleurs là que se trouve la grosse roche de laquelle le lac Mistassini tire son nom cri. Des pêcheurs, étonnés de rencontrer des kayakistes, taquinaient l'immense omble de fontaine. Quant à la faune terrestre, bien que chaque endroit foulé recelait de multiples traces animales, aucune bête n'a pu être observée. Du côté de Pitchouan, au 51e parallèle, nous franchissons le premier bassin au nord-ouest. La péninsule médiane ainsi traversée, le retour s'effectue dans l'aile sud-est du lac nommé Marcel Raymond. C'est à cet endroit que se situe la décharge du lac Albanel et la piste historique qu'empruntaient les Premières Nations et les Européens en route vers la baie d'Hudson, soit le portage d'Opitchouan. L'endroit qui mériterait d'être mis en valeur arbore plutôt ça et là d'anciennes infrastructures dans un état de laisser-aller avancé. Pensant avoir les vents dominants dans le dos, notre équipe est très surprise d'affronter des vagues écumantes de près d'1 mètre au jour 7, causées par une brise du sud-ouest, néanmoins chaude, qui souffle de la communauté de Mistassini. Par ailleurs, ce segment est davantage peuplé de camps cris au pourtour du lac. Au fur et à mesure de notre avancée, des abris apparaissent peu à peu, ainsi que d'anciennes signalisations de routes de canot camping. Le paysage montre de plus en plus de falaises, dont les strates témoignent clairement de la richesse minéralogique des lieux. Le cap fixé sur l'île Rouleau, laquelle résulte d'un impact de météorite, nous passons une rare caille, abritant une faune ailée. Longeant les falaises vieilles de 300 millions d'années, il est aisé d'observer les couches rocheuses successives dont est formée la région. Ce seront les plus hautes falaises observées durant notre expédition, le reste du littoral étant majoritairement plat. Bien qu'il faille une certaine audace pour se diriger franc nord vers une mer enclavée dont la réputation repose plus sur la pêche que sur l'expédition, cette incursion nautique offre une découverte privilégiée d'un territoire riche où l'on peut décrocher comme jamais. Son accessibilité changera à très court terme. La création du premier parc national Cree de l'histoire québécoise est projetée et celui-ci comprendra la totalité du lac Mistassini. Déjà figure dans les cartons des projets plein air 4 saisons. C'était « Périple en mer intérieure », un texte de Guillaume Saint-Pierre, paru au printemps 2022 dans le magazine Géoplein air, numéro 199.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visévoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Anne Hébert et Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.